persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, et qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.
On va continuer ensemble notre parcours et j'offrirai quand même à la fin du parcours un message qui va synthétiser pour ceux qui auraient été absents, qui n'ont pas écouté, ou pour ficeler un peu tout ce qui a été dit. Notre grand je suis, ce Dieu de gloire, ce grand je suis, infini, parfait, qui, depuis si longtemps, avait décidé, Père, Fils et Saint-Esprit, d'ouvrir l'espace de sa gloire, de son éclat à des hommes et des femmes comme nous, pour partager l'éternité. Il a décidé de faire cela pour qu'il puisse avoir en face de lui des « tu es ». Pas juste de la main-d'œuvre, pas juste des petites créatures serviles, mais des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, qui seront le reflet, qui vont rayonner de son rayonnement, le grand je suis, à la hauteur de toute chose, qui te dit, tu es ma création, tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu n'es pas un accident, et même si tu étais né d'un viol dramatique, mais moi je t'ai voulu. Dans les millions de possibilités, je t'avais voulu, parce que tu es mon enfant, tu es ma gloire. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es pas juste une grenouille de bénitier, tu ne viens pas juste remplir une chaise, il y a un appel incroyable, le mot vocation dans l'Écriture, particulièrement dans le Nouveau Testament, est tellement fort. Nous tous qui participons à l'appel, à la vocation de Jésus-Christ, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il y a un appel sur nos vies. Il y a un appel à gérer le patrimoine divin. Dieu nous prend. Il nous prend vraiment au sérieux. Et il nous confie toute une série de biens à gérer. On est des administrateurs, nous dit l'Écriture. On est, autre langage biblique, des sacrificateurs, comme ça on comprend par rapport à tout l'Ancien Testament. On est en train de gérer la relation du peuple avec Dieu. Il nous donne vraiment des choses à gérer. La vie chrétienne, c'est une profonde joie, mais un service joyeux. Il croit vraiment en nos capacités. Son esprit est là en nous pour pour nous rendre capables, pour nous rendre fidèles de gérer. Ce qu'on demande, dit Paul, aux administrateurs, aux gérants, à ce que nous sommes, c'est d'être fidèles. Et on est en train de voir ensemble ce que ça signifie être de vrais sacrificateurs, être des vrais rois. La Bible dit ça. Il a fait de nous un peuple de prêtres, de prêtresses, des rois et des reines. C'est pas qu'à Euro Disney qu'il y a une parade avec une reine, une princesse. L'Église, c'est un peuple royal. Un peuple royal. Et c'est pas constitutionnel, protocolaire. Il y a une vraie royauté à gérer ici-bas. C'est pour ça que dans notre Père, Jésus dit, priez pour que le règne de Dieu vienne, parce que nous sommes rois et nous amenons le règne de Dieu. Nous imposons ce règne d'amour, ce règne de gloire, ce règne qui peut toucher les cœurs, toucher les corps. On a un vrai mandat. Oikonomia en grec, une vraie économie. On a à gérer une maisonnée. Privilège, mais en même temps responsabilité. Parce que s'il n'y a que le privilège et qu'il n'y a aucune responsabilité, si on arrive au ciel et que Dieu dit, vous savez, c'était quand même pourri, ça n'a pas d'importance ce que vous avez fait, eh bien ça veut dire qu'on a tout compte fait, notre service ne valait pas grand-chose. Dieu ne nous prenait pas au sérieux. Mais Dieu nous prend tellement au sérieux. Il nous a créé des êtres libres, libres. Adam et Ève ont choisi, et la conséquence était terrible, parce qu'ils étaient vraiment responsables devant Dieu. Celui qui va en enfer, hélas, ça existe, mes amis, la Bible le dit. Dieu ne dit pas, oh, c'est pas grave, tu savais pas. Tu savais, tu as fait le mauvais choix. Imaginez un choix qui détermine mon éternité. Mon éternité. Est-ce que vous pensez parfois qu'il y a des actes qu'on peut faire sur terre qui peuvent entraîner un choix de vie terrible? Un moment d'égarement, un moment de violence qui pourrait transformer mes 20 prochaines années. C'est terrible quand même ça. Hein? Un mauvais choix qui peut déterminer l'éternité. Parce que Dieu fait de nous des êtres responsables. Et donc on a besoin de devenir des sacrificateurs compétents. On a besoin de prendre le temps de mijoter dans le bouillon de la responsabilité. Dieu ne dit pas, oh, c'est des petits carolos, hein, c'est pas grave. Non, non, Dieu dit, ils sont mes rois et mes sacrificateurs ici dans cette région, et je vais faire d'eux un peuple, un vrai peuple sacerdotal. Un vrai peuple de rois. C'est tellement important ça, c'est tellement important. On a une vraie mission, on a vraiment des choses à gérer. On a des choses à gérer. Premièrement, on a dit, je fais une synthèse, il nous donne du temps. Il nous donne du temps. Il nous donne des heures, des jours, il nous donne du temps. Pas pour le gaspiller, mais pour... Je n'ai pas dit qu'il faut tout le temps en train de courir à gauche, à droite. Jésus ne faisait pas ça. Jésus se retirait souvent dans les déserts. C'est pour ça qu'il nous disait, viens dans ma chambre, viens dans ta chambre. Je vais te parler. Il te donne du temps. Ne gaspille pas ton temps. Demandons-lui peut-être, Seigneur, montre-moi où je perds du temps. Peut-être on m'a confié des bonnes choses, alors que toi, tu me demandais des choses excellentes. Imaginez, arriver au ciel et dire, Walter, viens. Non, moi, je te demande. T'as bien fait ça, mais je ne t'ai pas demandé. Je ne t'ai pas demandé ça. Je t'avais confié une autre responsabilité. Gestion du temps. Deuxièmement, Dieu nous a donné, écoutez, ce que nous sommes, notre corps, notre vie. Alors j'ai parlé des dons spirituels et des capacités humaines. Mais j'ai mis ça dans un cadre plus important. Dieu t'a donné une machine incroyable, le corps. Et parfois, quand cette machine est un peu grippée, parfois fortement grippée, il suffit parfois qu'un petit rhume, tu dis, oh, la vie est dure, c'est difficile de vivre, le nez bouché, encombré, une petite chose, et tu dis, oh là là, vivement que je sois en pleine forme. Parce que Dieu nous a donné un potentiel incroyable. Il nous a donné un corps, une vie. Quand on se marie, quand même, je me souviens, le lendemain du mariage, alors je dis ça, j'en profite, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a un limbago, hein, donc c'est... J'étais conscient, mais avec le temps, on devient de plus en plus conscient. Et je me suis dit, J'étais un petit peu conscient quand même avant. Hein. Je dis, waouh ! J'ai la responsabilité de quelqu'un. En même temps, je dis, et je ne lui offre pas. Je ne lui offre pas mon dimanche après-midi. Je lui offre ma vie. J'offre quelque chose de sérieux, quoi. Qui a du poids. Qui a de la valeur. Tu n'offres pas des broutilles où on se voit juste... Non, tu offres ta vie. Parce que ça, c'est un potentiel que Dieu te donne. Dieu t'a... Alors, sois content de ce que tu es. Ne te dis pas, moi, je voudrais bien les cheveux du voisin et je voudrais le diplôme de la voisine. Ou... Sois content de ce que Dieu t'a fait, ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné une série de capacités. Mais je voudrais... Ne nous réduisons pas à nos dons spirituels. Non, Dieu agit et nous qualifie de manière toute particulière. Les dons spirituels sont tellement importants dans l'Église parce que ça nous équipe et ça nous permet de nous construire les uns les autres. Mais en même temps, il nous a donné toute une série de qualités qu'on peut mettre à son service pour sa gloire. Ce que tu es, considère-le comme un cadeau de Dieu pour son service. Et je dois gérer ça. Je dois gérer. Augustin disait... Veille sur ton corps comme si tu vivais 1000 ans. Veille sur ton âme comme si tu mourrais demain. Ok, alors pas le... Attention, dans notre société, le culte du corps, faites attention. Mais prenez quand même, prenez-en soin, parce que c'est le véhicule qui va vous permettre de vivre. Pour servir Dieu. Ouais. Et veille sur ton âme. Tout ce potentiel. Et Dieu dira un jour, qu'est-ce que tu as fait de cette magnifique usine chimique que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? J'avais préparé des œuvres bonnes. Parfois dans un contexte difficile. Une grande partie de nos frères et sœurs servent Dieu dans un contexte vachement difficile, mes amis. Au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Mais ils le font. Ne nous laissons pas endormir dans cette société de la jouissance. Il y a des bonnes choses, mais attention. On a un vrai mandat. On a vu aussi, j'étais rapidement, je reviendrai sur cela, que Dieu nous a confié aussi la gestion de la vérité. De la vérité. La parole de Dieu. C'est notre privilège, mes amis. Non pas pour devenir des inquisiteurs, non, pas du tout. Jésus n'était pas comme ça. Mais Jésus a dit la vérité. Si vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses d'en bas, quand je vais vous parler des choses d'en haut, il a parlé des choses d'en haut qui sont vraies. Et on est porteurs. Il a dit, allez les gars, allez dire la vérité. Ils ne seront pas d'accord. Certains ne seront pas d'accord. Pas de souci. S'il faut payer au prix de votre vie, vous aurez dit la vérité. Après, mon esprit va convaincre. On est appelé à gérer la vérité pour nous-mêmes. Donc, Jésus a souvent dit cela. Et ça, on doit prêter attention à cela. Hein? Ce serait facile pour moi de dire, bon... Celui qui entend ma parole et qui tilte pas là, qui est en magazine, qui est prêt pour question pour un champion et tout ça, mais qui ça ne change pas sa vie, c'est celui qui construit sa vie sur le sable. Et de nouveau, vous voyez encore la responsabilité d'une vie. Comment je suis en train de construire, je suis en train de bâtir. Ça vaut la peine de s'arrêter régulièrement et de dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là ici? Est-ce que je suis en train de construire ma maison à Bréden, dans le sable? Ou est-ce que je suis en train de creuser et de bâtir ma maison sur le roc? Et certains domaines où c'est peut-être difficile, mais je suis en train de vivre la parole de Dieu, d'appliquer. On est gestionnaire de la vérité. Aujourd'hui, je voudrais encore avancer un peu plus loin et nous dire que devenir des sacrificateurs et des rois compétents, cela implique aussi, probablement vous avez pensé d'abord à cela quand on a introduit ce sujet, je pense que ce n'était pas le point premier, mais vraiment important aussi, c'est la gestion des biens matériels. Dieu nous donne des biens matériels à gérer. Et ce n'est pas en dehors de son royaume. On l'a dit, Dieu nous confie la gestion de beaucoup de choses, mais j'aimerais vraiment attirer votre attention, l'Écriture insiste lourdement aussi sur la gestion des ressources financières. L'Écriture parle longuement de la gestion de nos biens. D'ailleurs, vous savez qu'il y a plus ou moins 500 versets qui parlent de la foi. C'est pas mal quand même. Oui, mais c'est par la foi qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Abraham a cru, il est rentré, l'histoire du salut. C'est la foi, la confiance. Il y a 500 versets qui parlent de la prière, c'est tellement essentiel. Vous savez combien de versets parlent de la gestion des biens? 2300. Oui, on n'entend pas. Ok. Mais même Mike dit, s'il te plaît. Mais je viens prendre le micro, bouge avec, moi, oui. Ouais. Non. Il y a un mot que j'oublie pour parler des personnes qui travaillent pour des sociétés qui... Enfin bref. 2300 textes dans l'Écriture nous parlent de la question de la gestion financière. Waouh ! Quand on voit ça, je me dis, Seigneur, ça ne t'ennuie pas du tout de parler de la question d'argent plus que n'importe quel autre sujet. Mis à part, il y a un sujet qui revient plus encore, c'est le contraste entre l'éternel et le temporel. Entre le ciel et la terre, entre ce qui dure et ce qui passe. Ça, il y en a plus. Mais 2300 textes qui parlent la question des biens matériels. 10% du Nouveau Testament, un chouette chiffre, qui parle directement de la question financière. 10%. Alors, je voudrais tout d'abord poser un principe important, et puis, si le temps est disponible, peut-être quelques points essentiels pour nous aider à vivre cela. Je crois que l'Écriture, la première chose qu'elle veut nous dire, c'est que nous devons choisir entre deux approches radicalement différentes pour la gestion des biens. Deux approches différentes. Deux valeurs totalement opposées. La valeur prônée par le monde, et celle encouragée par la parole de Dieu. On va se rendre compte qu'elles sont pratiquement opposées. Dans notre société, on nous dit globalement que l'argent va procurer le bonheur. Que l'argent procure la paix. Le bonheur, il se trouve dans l'acquisition des biens. L'argent fait le bonheur, globalement. C'est le message qui est véhiculé. La parole de Dieu nous dit, elle, quelque chose de tout à fait différent. Que la satisfaction de nos besoins les plus profonds, se trouve en Dieu. Waouh ! Là, on est déjà aux antipodes. Société dit, tu es ce que tu as. Si tu as plus, tu seras plus heureux. La Bible dit, ton bonheur ne dépend pas de ce que tu as. Connais ce riche insensé. Oh mon âme, tu peux faire la fête mon ami, tu as tout ce qu'il faut. Mais t'es fou. Aujourd'hui ton âme te sera redemandée. La Bible dit, trouve la satisfaction, tes besoins les plus profonds de bonheur, d'épanouissement en Dieu. Et contente-toi de ce que Dieu te donne, parce qu'il veille, il veille sur toi. Dans Matthieu 6, Jésus peut même dire que notre banquier nous dit, ne t'inquiète pas. Vous avez déjà reçu un courrier comme ça de votre banquier? Quand il m'écrit, c'est toujours pour me dire, monsieur Quiron, inquiétez-vous. Hein, toi aussi, on a le même. Mais ne t'inquiète pas, je veille sur toi. La Bible dit, l'argent, c'est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Si tu suis la sagesse du monde, l'argent va devenir ton maître. Il va t'assujettir, tu vas devenir son sujet, tu vas devenir son esclave. Si tu te conformes à la sagesse d'en haut, tu vas assujettir l'argent. Tu vas en faire ton sujet, ton esclave, parce que tu vas le mettre au service de Dieu et des autres. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que la Bible insiste tellement sur cette question? C'est quand même un livre spirituel. Moi, je pense trois raisons pourquoi la Bible en parle si souvent. Tout d'abord, je crois que la Bible, Dieu sait qu'on a du mal à bien gérer. On a du mal à bien gérer. Elle sait qu'on passe beaucoup de temps à gagner de l'argent, à dépenser de l'argent, à investir l'argent. Deuxièmement, je crois que la Bible en parle souvent parce que ça touche, ça joue un si grand rôle dans les relations interpersonnelles. Beaucoup de relations sont liées à la question de l'argent. Je vous parlerai tout à l'heure dans l'article. Il paraît que les gens passent la moitié de leur vie à penser à l'argent. Ça touche beaucoup de relations. Beaucoup de foyers croulent à cause du conflit financier. Et puis la troisième raison, je pense la plus importante, je crois que la Bible parle souvent de l'argent parce que notre façon de gérer nos biens, c'est une indication de notre consécration à Jésus. Wow, je voudrais vraiment poser cela dans nos vies maintenant. La Bible aborde cette question-là parce que ma gestion dit quelque chose de ma consécration au Christ. Vous savez que l'Écriture associe l'amour de Dieu et l'argent. Il y a des liens dans l'Écriture entre aimer Dieu et mon rapport à l'argent. Jean dit ceci, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère qui est dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?» Comment je pourrais dire que j'aime Dieu si... Et amour de Dieu et argent, c'est lié. Je peux donner l'apparence d'être un homme spirituel. Je peux donner l'apparence de servir Dieu. Je peux donner l'apparence de connaître beaucoup de choses. Mais je ne pourrais pas feindre la manière dont j'utilise mon argent. Je pourrais pas tricher là. Parce que mes livres de compte disent quelque chose sur ma véritable nature et ma véritable relation avec Dieu. Mes livres, tes livres de compte disent quelque chose sur toi et sur ta manière de marcher avec Dieu. Alors, dans ce fondement que je veux poser avec vous, il y a deux attitudes fondamentales que l'Écriture nous incite à avoir par rapport à la gestion. Tout d'abord, l'Écriture me dit que c'est vraiment dangereux de se les approprier. Je vais dire quelques mots sur cela. Et l'Écriture me parle du contentement. C'est un sujet tellement important que le contentement, j'en parlerai plus tard. Le contentement, c'est pas le fait de posséder tout, mais de se satisfaire de ce que Dieu m'a donné. Le contentement de l'Écriture, c'est fondamental. Paul dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. J'ai été voir mon petit-fils et j'ai bien regardé en tous ses bras. Il n'y avait pas de portefeuille. Il est venu comme Adam. Et je repartirai comme Adam. Faut que j'ai demandé à ma femme mettre un beau costume. Et Michel, je te promets, je mettrai la cravate aussi. Hein? Le contentement. C'est pas avoir tout, c'est se satisfaire ce que Dieu me donne. J'en parlerai plus tard, je ferai l'objet d'une prédication. Mais je voudrais juste, dans la question de la gestion, m'arrêter quelques instants sur le fait que l'Écriture me dit « Ne t'approprie pas ce que tu as. Ne t'approprie pas ce qui revient à Dieu. » Il y a une grande vérité dans l'Écriture. Tout appartient à Dieu. Et pour nous, les Belges, je pense pratiquement peut-être pour les hommes, c'est tellement difficile de ne pas vivre comme des propriétaires. Mais tout appartient à Dieu. Le psaume 24 dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent. » Waouh, ça décoiffe quand même. Tout est à Dieu. Nous sommes chez Dieu. Je mange ce que Dieu met dans mon assiette. Tout est à lui. Ce que je suis est à lui. Mon temps est à lui. Mais mes qualités, c'est pas à moi. Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous sommes chez Dieu. Nous n'avons rien apporté en venant au monde et on n'emporte rien en le quittant. En revanche, l'Écriture, Dieu dit dans les psaumes encore, « Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Oh, moi j'aime regarder le dimanche soir, le jardin extraordinaire. C'est beau. C'est Dieu. Mais tout est à lui. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Il s'ensuit que ce que nous avons vient de lui. Quand tu reçois ton salaire, au lieu de râler, d'abord, commence à louer Dieu. Après, tu vas voir Elio. Hein, tu parles un peu avec lui. Et... Il va faire quelque chose pour nous, Elio. Mais d'abord, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tout vient de toi. Et il n'y a rien de plus dangereux que l'homme qui croit s'être fait lui-même, self-made. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est moi, je mange dans la main de Dieu. C'est Bernanos qui disait ça des pauvres, ceux qui mangent dans la main de Dieu. Mais nous tous, nous mangeons dans la main de Dieu. Le problème, c'est que je peux croire ça théoriquement, théologiquement, mais le démentir dans ma pratique. Vraiment vivre comme un propriétaire. Vraiment vivre comme un propriétaire. Dieu disait dans Deutéronome, avant que le peuple ne rentre en Canaan, garde-toi de dire, c'est ma main, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces choses. Tu rentres dans un pays que je te donne. Tu vas rentrer dans des maisons que tu n'as même pas construites, dans des citernes que tu n'as pas creusées. C'est moi qui te donne. C'est moi qui te donne. Et le danger, parfois, on peut savoir ces choses. Mais mon vécu est différent. Je suis un propriétaire dans l'âme. Et le fondement que je voudrais vraiment poser ce matin, c'est d'abord cela. Comprenons que tout ce que nous possédons dans ce monde, ça appartient à Dieu. Et il me le prête. Vous avez déjà conduit la voiture de quelqu'un? Moi, j'aime pas ça. Et quand je conduis la voiture de quelqu'un, alors je vais vraiment doucement. Bon, petite anecdote. Oh là là. Tu sais, Espoir, c'était un des jours les plus difficiles de ma vie, vraiment. Oh, c'était terrible. Espoir, avec ce week-end-là, ça avait été difficile parce qu'on n'avait pas assez de véhicules et il nous a prêté son ancienne voiture. On lui a rendu juste les clés. J'aurais préféré mourir, mes amis. Oh, j'étais au tel. En plus, c'était pas mon volant. J'étais le samedi soir, je terminais la prédication. Alors, comme la famille était dans le living, moi j'étais dans la cuisine, je travaillais. Espoir me téléphone pour prendre des nouvelles. Je parle avec lui. Et puis il y a Laurence qui rentre dans la cuisine. Et j'avais Espoir au téléphone. Je dis, Espoir, je te rappelle. C'était terrible. C'était pas ma voiture. Mais. Après, j'ai dû lui retéléphoner. Oh là, c'était vraiment. Mais. Notre vie, c'est comme ça, quelque part. Ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas ma femme, c'est pas ma maison. Oui, mais, non, parce que, ah, c'est à moi, c'est pas vrai, ça. C'est à Dieu. Et Dieu met des choses sur mon compte. Alors, il y a beaucoup de choses. Le but n'est pas, je peux pas, dans le cadre de ce thème-là, sacrificature, faire toute une étude sur la gestion, sur les biens financiers. C'est pas le cadre. Mais il y a vraiment beaucoup à dire sur le sujet. Mais, on a vraiment besoin de comprendre que tout ce que nous avons, c'est vraiment Dieu qui nous le donne. Ma profession, ma famille, mes projets d'avenir, mes biens matériels, c'est Dieu. Et je voudrais donc ce matin vraiment mettre dans nos cœurs, chasser de nos cœurs cette mentalité de propriétaire. Je crois que si nous parvenons à nous défaire de l'idée que nous sommes propriétaires à 100%, nous serons prêts à nous conduire comme des gérants à 100%. Parce qu'un jour, je devrais téléphoner, pas à Espoir, à Dieu. Qu'est-ce que t'as fait avec ma voiture? Qu'est-ce que t'as fait? La maison que je t'ai donnée, qu'est-ce que t'en as fait? Oh, t'as passé ta vie dedans! T'as fait des travaux, et puis encore des travaux, et des travaux! Et à la fin des travaux, t'es mort! Je voulais tellement que tu fasses des choses avec cette maison, et t'as passé tout ton temps pour faire des travaux! On est des gestionnaires. ton patron a le droit de venir dire, bon, ok, les profs, qu'est-ce que tu as donné comme cours cette année? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est tellement important. Pas des propriétaires. La gestion de nos biens matériels, ça fait partie de notre sacrificature. Et c'est un élément constitutif vraiment de notre vie. J'ai lu un article, je voulais le mentionner il y a quelques temps, qui dit que autour de nous, les hommes et les femmes passent la moitié de leur temps à penser à l'argent, comment l'acquérir, comment le dépenser, comment l'économiser, comment payer ceci. Alors, quelle que soit l'exactitude de ce pourcentage, on voit que l'argent occupe une place importante dans la vie, dans l'esprit de l'homme. Et la Bible attache aussi de l'importance à nos biens matériels. 2300 textes. Ça veut dire que ma relation au bien matériel, c'est pas accessoire pour Dieu. Ça sera révélateur. Dieu me confie des biens. Alors, un grand principe biblique. C'est pour que je puisse aussi en jouir. Parfois, les chrétiens ont tellement peur de dire, ouais, ça y est, voilà. On le sent venir, il va parler de l'offrande. Mais la Bible parle pas. Vous êtes quand même, Mais la Bible dit, d'abord que Dieu, regardez ce que Jésus dit. Mais Dieu fait pleuvoir. Il lève son soleil. Dieu prend plaisir à faire du bien à ses enfants. Paul, je pense, à Athènes, il dit, mais mes amis, mais Dieu ne ressemble pas à une petite statue. Mais c'est Dieu qui vous donne les saisons fertiles. C'est Dieu qui vous donne la nourriture. Dieu est bon. Dieu met des choses sur votre compte pour que vous puissiez en jouir. D'accord? Raisonnablement, sagement, parce que je peux pas tout dépenser juste pour me nourrir. Il y a tellement de choses que Dieu veut me confier. Puis quand je sais aussi, petite remarque, qu'il y a un continent qui meurt de faim, mais il y a des choses que je peux pas acheter. Tu vas quand même pas mettre 30 ou 40 euros pour un morceau de poisson, alors qu'à côté, tout près de chez nous, il y a des gens qui savent. Faut être juste quand même. Donc, j'aurais vraiment gravé ça dans nos cœurs. Je crois que je ne serai jamais un chrétien responsable si je n'apprends pas à vivre convenablement avec les biens matériels que Dieu m'a donnés. Billy Graham, feu Billy Graham, un homme de Dieu remarquable, un évangéliste tellement puissant entre les mains de Dieu, disait ceci, « Mon compte bancaire, c'est un document théologique. Il montre en qui et en quoi je crois vraiment. » C'est aussi un domaine qui doit être soumis à la seigneurie du Christ. Alors, je voulais juste, je terminerai à midi, hein, je prends encore 10 minutes. Je me suis dit, comment je peux synthétiser tout ce que la Bible dit? Je me suis dit, ça serait peut-être chouette de montrer juste quelques photos de nos premiers parents. On dit, l'Église à l'âge d'or. Comment la première Église a vécu son rapport à l'argent. Il y aura certainement des choses intéressantes. Vous dites, oui, mais alors tu occultes tout l'Ancien Testament. Ouais, on peut pas tout faire. Je voudrais quand même nous dire que ces premiers croyants étaient les héritiers de tout un enseignement, tout le vécu d'un peuple dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Allez, si on faisait l'exercice, tu lis une fois l'Ancien Testament, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux retenir? La question de la gestion des biens. Juste 2-3 idées. Il y a vraiment toute une culture. Israël, Dieu leur a dit des choses. D'abord, Dieu voulait qu'Israël jouisse de sa générosité. Je te fais rentrer dans une terre fertile. De lait, de miel, du vin nouveau. Première idée. Dieu était bon pour son peuple. Dieu est bon pour toi. Te laisse pas piéger par l'ascétisme, ces mouvements qui ont marqué l'histoire de l'Église, même si ça a existé. Deuxième accent de l'Ancien Testament, honore-moi avec tes biens. Ça, on peut pas rater ça dans l'Écriture. Honore-moi avec tes biens. Je veux ton cœur, ouais. Mais l'une des manières de me montrer que j'ai ton cœur, c'est tes biens. Honore-moi avec tes biens. D'ailleurs, il y a des choses vraiment étonnantes. Au moment de la récolte, qu'est-ce que doit faire Israël? Pas d'abord mettre dans le grenier. Non, non, tu viendras d'abord apporter les premières gerbes à Dieu. C'est pas pour toi. Vraiment l'idée, accorde-moi. Regardez, Jéricho, conquête, première grande ville. Et ils viennent, ils sortent esclaves, ils ont pas grand-chose, hein. Première ville, qu'est-ce que Dieu dit? tous les biens seront pour moi. Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Non. Ça allait servir, bien sûr, à la vie du tabernacle. Ok. Mais c'était un test pour Israël qu'il a manqué, qu'il a raté. À quand? Et ça a amené une défaite après Haï. D'abord pour moi. Honore-moi avec tes biens. Honore-moi avec tes biens. Hein? Il y a la dîme. Alors c'était un peuple habitué. Nos ancêtres étaient les héritiers de cela. Hein? La dîme. Et puis aussi, si tu lis l'Ancien Testament, tu vas te rendre compte que les sacrifices à Dieu, c'était quand même coûteux. Hein? C'est quand même pas rien. Et ils offraient pas un petit caniche. Hein? Quoi que c'est vrai, excuse-moi, les caniches sont chères. Hein? Mais c'était un beau taureau. Hein? Quand même, le prix d'un taureau, c'est... Dieu voulait qu'on montre, je t'offre quelque chose qui me coûte. David dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Il y a les prophètes, Malachie dit, mais Dieu dit à travers Malachie, j'en ai marre de vos sacrifices, les gars. Vous regardez dans votre bétail, alors quelle est la bête un peu foireuse? Celle qui a une patte trop courte, qui est aveugle, ça je vais offrir à Dieu, de toute façon j'en ai pas besoin. Ou c'est pour ma belle-mère, ou c'est pour Dieu. Vous voyez, tout ce panorama de l'Ancien Testament, Dieu fait du bien, Dieu fait du bien, mais honore-moi. Un refrain qui revient dans le Pentateuque, les cinq premiers livres. On ne viendra pas les mains vides devant moi. On ne viendra pas les mains vides devant moi. Est-ce que Dieu avait besoin? Non. Mais Dieu n'a besoin de rien. Tous les animaux sont à lui. Mais j'habitue mon cœur à ne pas être un propriétaire. Hein? Alors, et je termine avec juste première photo. Et pour moi, c'est la plus importante. Toutes les autres vont découler de cela. Qu'est-ce qu'on peut voir de nos pères dans leur rapport avec les biens financiers? Quand tu regardes l'église primitive, je dirais, on voit que ce sont des gens responsables du royaume de Dieu. On voit qu'ils étaient passés d'un royaume à un autre. Pierre, juste avant l'arrestation, disait encore, bon, est-ce que tu veux qu'on aille vite encore faire des courses? Est-ce que tu veux que je prenne un peu d'argent? Il nageait dans la semoule. Mais maintenant, vous les voyez, toute cette jeune église, ils étaient conscients qu'ils étaient passés dans un autre royaume. Ils étaient rentrés dans le monde de Dieu. Ils étaient vraiment devenus des sacrificateurs pour Dieu et ils s'occupaient de développer le règne de Dieu. Et donc, naturellement, leur centre d'intérêt avait changé. Ils étaient responsables du royaume de Dieu. Ça, c'est la clé dans le Nouveau Testament. Et c'est la clé pour nous aussi d'une bonne gestion. C'est pourquoi je synthétise un peu tout ce que j'avais préparé. Dans le Nouveau Testament, tu vas avoir très très peu de codification, de pourcentage. Et ça gêne parfois les chrétiens. Dîme ou pas dîme? Le Nouveau Testament ne parle pas vraiment de ça. Je crois que le Nouveau Testament met la barre beaucoup plus haut. C'est pas que je peux dire, voilà, j'ai donné la dîme, oui, mes pères faisaient ça. Et je pense que c'était un bon principe. Mais le Nouveau Testament va beaucoup plus loin. C'est que je suis maintenant responsable du royaume de Dieu. Je prends un exemple. On a eu cinq enfants. On a toujours cinq enfants. Hein. Ils en ramènent d'autres. Hein. Il y a des moments, ils sont souvent malades. On n'a jamais dit, écoute chérie, tu as dépensé tes allocations familiales en médecins, en médicaments, t'as terminé. Mais on se sentait responsable. S'il avait fallu faire des prêts pour les soigner, mais on l'aurait fait. Parce qu'on s'en sentait vraiment responsable. Pour eux, être ambassadeur de Jésus-Christ, agent de réconciliation, prêtre, roi, ouvrier avec Dieu, ça signifiait vraiment quelque chose. Ils se savaient responsables de ce royaume. C'était leur vie, c'était leurs affaires. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ils avaient assimilé cette fameuse parabole des mines et des talents. Le maître part et il confie des biens. Vas-y, gère. Ce que je t'ai donné, jouis-en, mais utilise-le aussi pour gérer le royaume de Dieu. Donc, le don n'a rien à voir, l'offrande n'a rien à voir avec l'émotion dans l'église. Rien du tout. Je me souviens au début de l'implantation, il y avait quelqu'un qui avait dit, « Oh, moi, quand le message me botte, là, je donne. » C'est pour ça qu'on ne fait plus jamais l'offrande après le message. Mais Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir. On ne donne pas à manger aux enfants quand ils ont été gentils. On leur donne à manger parce qu'on sait qu'on est responsable, qu'ils deviendront gentils en mangeant. Enfin, on espère, on prie. Hein. Il s'agit pour nous de devenir responsables de la vie spirituelle. Nous sommes responsables de la vie spirituelle de nos frères et de nos sœurs. On est responsables de la région. On est responsables de tout ce que Dieu nous demandera d'accomplir. On est responsables du bâtiment. C'est embêtant, hein? Ah oui, parce que ça fuite, les gars. C'est embêtant. C'est embêtant quand il faut remplir la cuve. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant quand il faut aller changer les chaises. Oh oui, parce qu'il faut dépendre. Mais on est responsable. Qu'est-ce qu'on veut? On est responsable du royaume de Dieu. On pouvait laisser. Vincent a beaucoup insisté. Il dit, mais écoutez, les toilettes, les gars, ça fait un peu Moyen-Âge. Quand les gens viennent. Mais on est responsable quand même de hein, on veut pas que ça soit le Vatican. Mais on veut pas non plus que ça soit le Bronx. On est des gens responsables. Et regardez dans le livre des Actes. Ok, il y a un problème avec les veuves. Ah ben, ils n'ont pas téléphoné au CPS, hein. Et merci pour le boulot, super. Mais trop souvent, l'Église dit, ok, on va téléphoner là-bas. On est responsable. On est responsable. Des membres en difficulté. Paul dit, mes collaborateurs vont venir. Est-ce que vous voulez bien prendre soin d'eux? Ils se sentaient responsables. Ils se sentaient responsables. Alors je termine en disant, dis-moi comment tu donnes. Et je te dirai si tu es un chrétien responsable. Je redirai quelques mots en ajoutant un dernier point, un dernier domaine de gestion la semaine prochaine. Ne voyons pas ça comme une contrainte, mais comme un privilège. Parce que Dieu a confiance en nous. Il dit, ils sont capables. Je ne dois pas toujours envoyer des missions américaines pour dire, ça va les gars, je vous donne les dollars. Dieu dit, ok. Je sais que c'est une période difficile, période de crise, je sais. Mais vous êtes responsable. Vous saurez le faire. C'est notre passion. C'est notre vie. Le royaume de Dieu. Jésus, dans la parabole de Luc 16, l'intendant infidèle, la gestion des biens, dira que les gens du monde... J'irai quelques mots sur cette parabole la semaine prochaine. Ils sont parfois plus sages que les enfants de lumière parce qu'ils utilisent leurs biens pour les autres. Utilisez vos biens pour que quand ils vont vous recevoir dans le royaume de Dieu, ils puissent dire, je te remercie parce que tu as utilisé tes biens, tu m'as reçu, tu m'as fait à manger, tu as dépensé pour moi, tu as dépensé pour moi, tu as investi pour moi. Wow. Dieu peut transformer l'utilisation des biens matériels en biens spirituels. Waouh. Hier, tout était gratuit. Tout est pour certains. Pour d'autres, ça a coûté. Ça a coûté. Pour le bien des autres. Vous voyez combien on est. Il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Il nous donne des choses pour que nous puissions en jouir. Pour que nous puissions en jouir. Et faire jouir les autres aussi de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. J'ajouterai quelques mots encore la semaine prochaine. Que le Seigneur nous encourage, nous fortifie à devenir de plus en plus responsables. On se lève ensemble pour chanter un dernier chant pour terminer.